La marche du monde.
Ils sont morts si jeunes, ils sont morts si violemment, les soldats de la Grande Guerre. Presque 10 millions de corps mutilés, disloqués, dont certains n'ont jamais été retrouvés par leur famille. Et pourtant, c'est le souvenir d'une mort heureuse, d'une mort choisie, que les combattants ont voulu laisser à ceux qui les aimaient. C'est en tout cas ce qu'ils écrivent dans leur testament, dans leur témoignage, dans leur récit de guerre, au moment même où ils la font. Mais qu'en est-il de leur première expérience de la guerre? Étaient-ils préparés? Comment ces hommes ont-ils perçu le chaos assourdissant et la puissance du feu de la Première Guerre mondiale, de la Première Guerre moderne? Pouvaient-ils même imaginer l'apocalypse du champ de bataille? Et pourquoi n'ont-ils rien dit? Autant de questions abordées ici à l'Historial de la Grande Guerre, à Péronne, au nord-est de Paris, à l'occasion du colloque joliment intitulé « Les premières fois de la Grande Guerre ».
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La marche du monde est à l'Historial de la Grande Guerre où une centaine d'historiens du monde entier s'interrogent sur les premières fois de la Grande Guerre, une première guerre moderne, mondiale, à laquelle des peuples sont souvent hostiles lors des mois qui précèdent le conflit. On voit en Angleterre des manifestations pacifistes importantes et soudainement, les opinions publiques passent de l'hostilité au consentement. Comment est-ce possible un tel basculement, Stéphane Audouin-Rousseau?
Le basculement, donc, il a été étudié, au fond, pour la France très, très précisément, autrefois, en son temps, par Jean-Jacques Becker. Et au fond, les comparaisons qu'on a pu faire avec, en tout cas en Europe occidentale, avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne, au fond, sont relativement, ces comparaisons sont relativement cohérentes avec la France. Au fond, là, ce qui explique, je crois, il y a deux éléments essentiels, un de fond et un de conjoncture. L'élément de fond, c'est bien sûr la construction des nations européennes. Cette construction par l'école, par le journal, par le service militaire, donc universel, qui s'universalise à peu près dans tous les pays, à l'exception bien sûr du Royaume-Uni avant 14. Donc tous ces éléments ont homogénéisé les nations européennes, dont on a du mal aujourd'hui à s'imaginer font la force du patriotisme, la force du sentiment d'appartenance, même si ce sentiment d'appartenance n'était pas ressenti de manière absolument consciente chez tous, même s'il ne s'exprimait pas à tout bout de champ. Mais quand la guerre est là, qui est une expérience à la fois individuelle et collective majeure, c'est au fond le sentiment d'appartenance aux patries qui joue de manière extrêmement nette. La deuxième chose qui est d'ordre conjoncturel, je crois, c'est la brusquerie de la crise internationale du coup permet de rejeter aisément sur l'autre la responsabilité de la crise. Puisque la crise est si brutale, c'est que l'autre avait préparé, au fond, son agression. Et donc, dans l'été 14, chacun est intimement persuadé que son propre pays se défend.
Et de seul homme, il faut se défendre.
Et que le patriotisme défensif est le patriotisme offensif, c'est tout à fait autre chose. Mais le patriotisme défensif est un sentiment d'une très grande force.
Alors même que de l'hostilité s'était exprimé juste avant.
Oui, bien sûr, de l'hostilité, il y en avait, mais elle n'était pas forcément très marquée. Il y avait au contraire des tas de formes d'internationalisation de la vie européenne, des tas d'internationales, international socialiste, international catholique, international scientifique, international féministe, etc. Mais dans le contexte particulier de l'été 14, c'est finalement le patriotisme défensif qui surmonte les autres sentiments collectifs.
Stéphane Audouin-Rousseau, historien spécialiste des violences extrêmes et président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre, est mon invité dans la marche du monde, ainsi que Francisca Enberger de l'École des hautes études en sciences sociales, Nicolas Beaupré de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, sans oublier Gerd Krumeich de l'Université allemande de Düsseldorf. Il nous livre une première réflexion sur l'entrée en guerre des Allemands.
Les soldats allemands se ruaient pour être mobilisés. Donc il y avait des millions qui accouraient aux casernes pour participer dans cette guerre de défense où il y allait du salut de la nation. C'est très important de réaliser qu'il y avait un enthousiasme de guerre qui n'avait rien de superficiel. C'était très sérieux cet enthousiasme. C'était un « allons-y, il le faut ». Allons-y et courageusement, il le faut. Ça, c'était l'esprit.
Stéphane Audouin-Rousseau, Un air dubitatif sur votre visage. Cet enthousiasme de guerre, est-ce qu'il est partagé par les Français?
La notion d'enthousiasme, il y a eu de l'enthousiasme en 14 certainement, mais tout indique qu'il a été relativement minoritaire. Il est d'abord généralement urbain. Il se manifeste, et surtout, c'est un phénomène des grandes villes, effectivement, de Berlin, de Vienne, de Paris dans une certaine mesure. Il est assez circonscrit dans le temps et surtout dans les lieux. C'est vraiment le moment du départ, le moment où les régiments embarquent dans les trains. C'est ce moment-là, sans doute, où effectivement ces manifestations d'enthousiasme qui ont été sans doute surinterprétées, surévaluées aussi quantitativement, parce que c'est là que l'image s'impose, c'est là que les caméras se trouvent en particulier. Mais cet enthousiasme a existé, il est très intéressant. Même s'il est minoritaire, il se peut qu'il représente en quelque sorte plus que lui-même. On ne peut pas le laisser de côté. C'est pas parce qu'il est minoritaire qu'il n'est pas extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il dit d'autre que lui-même? Ça, c'est un point important. Néanmoins, globalement, il semble bien que les sociétés européennes soient entrées en guerre, les soldats en particulier, soient partis sans enthousiasme. Mais effectivement, Gerd Kommacher a raison de parler là de résolution. Je crois qu'il emploie le mot. Cette résolution a existé, elle a été croissante. Elle a été croissante au fur et à mesure que la proximité du départ effectif apparaît à l'horizon. Et voilà, je crois que c'est plutôt le terme de résolution que d'enthousiasme. Je crois que c'est Marc Bloch qui disait dans ses souvenirs de guerre, les hommes n'étaient pas enthousiastes, ils étaient résolus, ce qui vaut mieux. Et c'est effectivement, je crois, le sentiment, le point dominant, je crois, du début du mois d'août 14.
Résolu, consentant, les soldats vont être formés au sein de l'armée, et notamment de l'armée allemande.
En Allemagne, les soldats avaient eu un service de caserne, un service actif de 2 années. Et on avait fait un tri très méticuleux dans la mesure où on avait beaucoup trop d'hommes pour l'armée active. Donc on a exclu les sociodémocrates dans la mesure du possible, des gens des couches populaires. On a pris des paysans pour éviter les protestations ouvrières au sein de l'armée. Beaucoup étaient réservistes, bien sûr. Mais ce peuple accourait aux casernes le 1er août, à la mobilisation.
Quelle est la stratégie, Gerd Kommacher, des Allemands?
La stratégie, c'était simple. On voulait écraser la France en 4 semaines par le jet de 2 grandes armées de presque 800 000 qu'on projetait à travers la Belgique vers la France. On serait bientôt devant Paris, et puis on aurait battu les Français, annihilés, comme on disait à l'époque, donc mis hors de combat, étant donné qu'on pensait que les Russes ne seraient prêts que dans 3 semaines pour attaquer. Alors, à ce moment-là, on a pensé devoir faire vite pour y arriver à bon terme. On voulait la guerre courte, fraîche et joyeuse, et il fallait que ça bouge.
Qui sont-ils, ces hommes candidats à la guerre en août 14? Quelles sont leurs différentes origines sociales et idéologiques effacées par le port de l'uniforme en ce qui concerne les Allemands? La réponse de Gerd Kommacher.
Bon, l'uniforme allemand a évolué au fur et à mesure des expériences de guerre. Mais dès le départ, il y avait un uniforme plutôt gris et pas très, très voyant. Ça, c'était important. Puis, ils avaient leur casque à pointe. Ils ont tout de suite appris que les pointes, trop reluisantes, il fallait les couvrir d'une étoffe, et ce qui fut fait. Pour le reste, ils portent lourd, ces soldats de 14. 35 kilos, avec leur veste et leur chemise et leur pantalon en étoffe très lourde. Or, il faut savoir que ces jeunes gens, ils étaient robustes, ils étaient pour la majorité des paysans. Fallait pas une douche tous les jours, non. Ils n'avaient pas ça avant, non plus. Il faut donc pas sous-estimer l'effort qu'ils ont fait et que c'était presque pas tenable. Mais là, il n'y avait pas de protestation parce qu'ils étaient habitués aux efforts de tous les jours.
C'est le thème de réflexion proposé par le Centre international de recherche de Péronne. Nous avons monté notre studio de campagne avec nos invités Gert Krumage, que vous venez d'entendre, mais aussi Stéphane Audouin-Rousseau, Nicolas Beaupré et Franziska Einberger. Nous essayons de comprendre ce qu'ont vécu les soldats dès 1914, dès août 1914. Alors pour ces hommes, ce départ à la guerre, c'est quand même l'inconnu total. La plupart d'entre eux n'ont jamais quitté leur village. Ils connaissent à peine leur langue nationale. Beaucoup parlent le patois même. Comment cette question est envisagée, cette question de la langue, dans les états-majors, Franziska Einberger?
Alors, l'anticipation de la question linguistique, c'est un cas assez réussi, finalement, parce que suite à une expérience coloniale, des pratiques coloniales militaires, il y a eu une préparation de la question dès 1905, dès 1906, il y a eu une mise en place, et l'accord qui a été trouvé, c'était que les Français, en cas d'intervention britannique sur le continent, fournirait des soldats qui parlent anglais, qui pourraient servir de guide, d'interprète pour les troupes britanniques une fois arrivées en France.
Alors c'est assez drôle parce que des interprètes vont être recrutés, mais il faut voir comment. Vous donnez par exemple l'exemple d'un Français, André Mauroy, enrôlé comme anglophone sur le simple fait que sa mère a déclaré « oui, oui, il parle anglais ».
Tout à fait. Il n'y avait aucune préparation théorique. Ils n'ont pas eu de cours d'interprétation. Ils n'ont pas eu de cours de vocabulaire militaire. Ce sont des gens dont on savait qu'ils parlaient anglais. Il n'y en avait pas tant que ça en France à l'époque. Il a fallu les trouver. Ils n'ont été nullement préparés. Donc, ils ont dû se débrouiller sur le coup.
Alors, au-delà des interprètes, ça veut dire aussi qu'on réfléchit à des fascicules, à des petits livres. On va parler plus largement de la production littéraire avec Nicolas Beaupré tout à l'heure, mais à ce niveau-là, déjà, on conçoit la méthode assimile de l'époque pour le soldat.
Jusqu'à un certain degré, oui, effectivement, il y a eu des publications à la fois pour, par exemple, pour les soldats britanniques qui sont arrivés en France et qui avaient besoin de faire des petits achats, s'ils voulaient compléter leur ration. Ils avaient des petits guides vocabulaires, souvent de format de poche, qui étaient vendus soit avec des journaux, soit envoyés par des proches, et qui leur permettaient, avec des mots très simples, d'obtenir ce qu'ils cherchaient auprès des civils français.
Alors Nicolas Beaupré, vous qui travaillez beaucoup sur les écrits de guerre, est-ce que l'inconnu, est-ce que cette destination inconnue, est-ce que les inconnus, les ennemis donc, que l'on ne connaît pas encore, c'est une dimension présente dans les premiers récits des combattants?
Oui, alors il faut quand même expliquer une chose, parce que le processus d'écriture a plusieurs temporalités et se met en place progressivement, puisqu'on part quand même pour une guerre courte. Les premiers récits des combattants, en fait, qui sont publiés sur les premiers mois de la guerre, ne paraissent qu'avec un certain retard, en fait, dans la première moitié de l'année 1915. Et ce qui fait qu'il y a, toute une série de filtres entre le récit de cette première semaine de la guerre, de ces premiers mois de la guerre, et le moment où paraissent ces textes. Et il y a aussi des problèmes, on va dire, matériels et structurels à cette mise en récit des premières semaines de la guerre. D'abord, on est plongé dans une extrême violence dans les premiers jours du mois d'août 1914 et dans une guerre de mouvement qui ne laisse peu de place, peu de loisirs en fait pour l'écriture. Et donc quand on se met à écrire en fait, c'est dans une forme d'après-coup déjà. Même si cet après-coup, il est très très bref, très court, quelques jours, quelques semaines, mais on est quand même dans l'après-coup. Alors que l'écriture de la guerre des tranchées par exemple est très différente parce que là il y a une forme d'immédiateté qui est permise en fait par le caractère statique de la guerre. Ce qui fait que les récits de la rencontre avec la violence sont assez rares, en fait, du mois d'août 1914. Ils existent, mais ils sont assez rares parce que, en plus du côté français, c'est une catastrophe. On rentre dans la guerre par une catastrophe. On rentre dans la guerre par un grand massacre qui est extrêmement difficile à mettre en récit. Je peux vous donner un exemple, c'est le livre de Maurice Gandolf qui s'appelle La Marche à la Victoire et qui commence en septembre 1914, alors qu'il a participé au premier mois de la guerre. Et il commence en fait par la bataille de la Marne. Hein, donc il y a une sorte de caractère différé en fait de cette entrée en guerre. Ça ne veut pas dire que les premières batailles de la deuxième moitié du mois d'août, puis la retraite, ne sont pas mises en récit. Il y a des mises en récit. Mais ensuite, elles sont différées et du coup, elles sont réinterprétées, remises dans un récit déjà qui commence finalement avec la première grande victoire française, qui est celle de la bataille de la Marne, qui permet de mettre en perspective cette découverte de la violence extrême des premiers jours de la guerre.
Nicolas Beaupré, puisque on parle des premières fois, alors quels seraient les premiers mots de ces premiers récits ?
On peut prendre un récit qui a été écrit longtemps après la guerre, mais qui raconte cette découverte par un soldat de ce conflit. Là aussi, à la fin de l'année 14, au début de l'année 1915, c'est La main coupée de Bessandra qui a été écrite pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui commence par ces simples mots « Il y a du nouveau ». Et ces simples mots, il y a du nouveau, c'est l'incipit du livre, va être ensuite répété dans les premières phrases du livre. Et ce nouveau, c'est pas tant la découverte par Bessandra, son arrivée au front, sa découverte des tranchées, c'est à l'intérieur de son récit, toutes sortes de premières fois qui sont pour lui des scansions en fait de son expérience de guerre. Et là, quand il dit il y a du nouveau, en fait, il parle des quelques semaines qui vont précéder sa propre blessure. Donc il part de la fin. Je vous lis. Le nouveau pour nous, c'est que le printemps nous travaillait et qu'après cette saignée vaine et héroïque, l'arrière commença à se remuer. Les colis arrivaient, les mandats, les lettres, les journaux qui, comme les cartes illustrées de vieille, nous parlaient de permission prochaine. Il y avait une chance de s'en tirer, de se barrer. Ça continue.
Merci Nicolas Beaupré pour cette lecture de Blaise de Sandrard, La main coupée.
Je crois que Marc Bloch commence ses souvenirs de guerre qui sont effectivement ex post, puisqu'il faut qu'il soit à l'hôpital avec une typhoïde début 15 pour pouvoir écrire sur l'expérience d'août et septembre. Il dit août 14 avec un point d'exclamation. Il commence comme ça, août 14. C'est à la fois extraordinairement sec et vraiment la rupture temporelle est vraiment frappante. Il n'arrive pas à commencer par autre chose. Août 14.
Août 14, il y a donc du nouveau. Les hommes deviennent des soldats, ils sont jetés dans la Grande Guerre dès son éclatement en août 14. Ils partent de leur plein gré, avec ce consentement, dans un combat qu'ils ne soupçonnent pas, un combat inouï, imprévisible, à suivre dans la marche du monde, juste après les infos sur RFI.
On part, Dieu sait où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Thank you.